Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 5, chapitre 4. Sommaire, de l'immobile, sens divers de ce mot, de l'inertie, résumé partiel des théories précédentes. Paragraphe 1. L'immobile est ce qui ne peut pas du tout être mis en mouvement, pas plus qu'il n'est possible que le son soit visible. On appelle encore immobile ce qui ne se meut qu'à peine dans un long espace de temps, c'est-à-dire ce qui se met lentement en mouvement et qu'on nomme alors difficile à mouvoir. On appelle enfin immobile ce qui, devant et pouvant naturellement se mouvoir, ne se meut pas quand il le faut, où il le faut et de la manière qu'il faut. Dans les choses immobiles, c'est là seulement ce qu'on doit entendre pour le repos, car le repos est le contraire du mouvement, et l'on peut dire que c'est la privation de la qualité dont le sujet serait susceptible. Paragraphe 2. Ainsi, l'on doit déjà voir clairement, d'après ce que nous avons dit, ce que c'est que le mouvement et le repos, quel est le nombre et la nature des changements et des mouvements. Chapitre 5. Sommaire. Explication des divers termes, être ensemble, être séparé, toucher, être intermédiaire, suivre, être cohérent, être continu, définitions et exemples. Paragraphe 1. D'après ce qui précède, expliquons ce qu'il faut entendre par être ensemble, être séparé, se toucher, être intermédiaire, suivre, être cohérent, être continu, et indiquons quels sont les objets auxquels ces termes s'appliquent naturellement. Paragraphe 2. Être ensemble dans l'espace s'entend des choses qui sont dans un seul et même lieu primitif. Séparé s'entend des choses qui sont dans un lieu primitif différent. Paragraphe 3. Se toucher se dit des choses dont les extrémités sont ensemble. Paragraphe 5. L'intermédiaire est ce par quoi la chose qui change doit naturellement passer avant de parvenir à l'extrême dans lequel elle change, quand elle change selon sa nature d'une manière continue. L'intermédiaire suppose au moins trois termes, car le contraire est l'extrémité du mouvement. Paragraphe 6. Et l'on dit que le mouvement est continu quand il n'y a aucune interruption, ou du moins quand il n'y a qu'une très petite interruption de la chose et non pas du temps. Car rien n'empêche qu'il n'y ait une interruption de la chose. Et par exemple, après la note la plus haute, on peut faire entendre aussitôt la note la plus basse. Mais je dis que cette interruption ne peut être que dans la chose pour laquelle le mouvement a lieu. Et c'est là ce qu'on peut voir, soit pour les changements qui ont lieu dans l'espace, soit pour tous les autres changements. Paragraphe 7. Le mot de contraire, en ce qui regarde le lieu, s'applique à ce qui est en ligne droite le plus éloigné possible. Car la ligne la plus courte est déterminée et finie, et ce qui est déterminé et fini peut servir de mesure. Paragraphe 8. Suivre se dit d'une chose qui, ne venant qu'après le commencement et étant ainsi déterminée, soit par position, soit par nature, soit tout autrement, n'est pas séparée de la chose après laquelle elle vient, par aucune autre chose de même genre. C'est ainsi, par exemple, qu'on dit d'une ligne ou de plusieurs lignes qu'elles suivent une autre ligne, d'une unité ou de plusieurs unités, qu'elles suivent une autre unité, d'une maison, qu'elle vient à la suite d'une autre maison. Mais il se peut fort bien qu'il y ait entre les deux choses une chose différente, car ce qui suit est consécutif à quelque chose et est quelque chose du postérieur. Et l'on ne peut pas dire que un suive deux, ni que le premier du mois suive le deux du mois, mais tout au contraire, c'est deux qui suit un. Paragraphe 9. Une chose est cohérente à une autre quand, venant à la suite de cette chose, elle la touche. Paragraphe 10. Mais, comme tout changement a lieu entre des opposés, et qu'on entend par opposés et les contraires et les contradictoires, il est évident que l'intermédiaire fait partie des contraires, attendu qu'il n'y a pas de milieu possible dans la contradiction. Paragraphe 11. Enfin, on entend par continu une sorte de cohérence. Ainsi, je dis d'une chose qu'elle est continue quand les limites par lesquelles les deux parties se touchent se sont confondues et réunies, et qu'alors, comme le mot même l'exprime, elles se continuent et se tiennent. Mais c'est ce qui ne peut avoir lieu tant que les extrémités restent deux. Évidemment, il suit de cette définition qu'il n'y a de continuité que dans des choses qui, en se touchant, peuvent arriver naturellement à ne plus former qu'une seule chose. Et autant le contenant peut devenir un, autant le tout deviendra un et continu. Par exemple, quand un continu se forme, soit à l'aide d'un clou, soit à l'aide d'un collage, d'un contact ou d'un soudage naturel. Paragraphe 13. D'ailleurs, il n'est pas moins clair que l'idée de suivre est antérieure à celle de toucher, car ce qui touche une chose la suit nécessairement, mais ce qui suit une chose ne la touche pas toujours. Aussi, c'est là ce qui fait que, dans les termes qui rationnellement peuvent être antérieurs, il y a consécution, tandis qu'il n'y a pas contact. Paragraphe 14. Du moment qu'une chose est continue, il y a nécessité qu'elle touche. Mais elle peut toucher sans être pour cela continue, car les extrémités des deux choses peuvent être ensemble, dans l'espace, sans se confondre en une. Mais si elles se confondent, il faut nécessairement qu'elles soient ensemble. Par suite, la combinaison des natures est la dernière à se produire, car, pour que les extrêmes se confondent et se soudent, il faut absolument qu'ils se soient touchés. Mais tout ce qui se touche ne se confond pas, et par conséquent, là où il n'y a pas de contact, il n'est évident qu'il n'y a pas non plus de mélange ni de fusion. Paragraphe 15. Il s'ensuit que, bien que le point et l'unité soient séparés dans la matière, ainsi qu'on le dit, il n'est pas possible que jamais le point et l'unité soient la même chose, car les points se touchent, tandis que les unités se suivent. Et pour les points, il peut y avoir entre eux un intervalle, car toute ligne est un intervalle entre deux points. Tandis que pour les unités, l'intervalle est nécessairement impossible, car il n'y a rien absolument entre deux et un. Paragraphe 16. Voilà donc ce qu'il faut entendre par les termes que nous avons énumérés: ensemble, séparé, contact, intermédiaire, suite, cohérence, continuité, et tels sont les objets auxquels ces termes peuvent s'appliquer. Chapitre 6. Sommaire. De l'unité et de la diversité de mouvements. Mouvement génériquement 1 et spécifiquement 1. De l'unité absolue de mouvement. Différence de l'identité et de l'unité. Digression. De la continuité du mouvement. De l'égalité et de l'inégalité de mouvement. Considération générale de l'égalité et de l'inégalité du mouvement. Paragraphe 1. Quand on dit que le mouvement est un, cette expression peut se prendre en plusieurs sens, parce que selon nous, l'idée d'unité peut aussi en avoir plusieurs. Paragraphe 2. Le mouvement est génériquement un suivant les formes de la catégorie où on le considère. Ainsi, la translation est un mouvement qui est un sous le rapport du genre pour toute translation quelconque. Mais l'altération diffère de la translation par son genre qui est autre. Paragraphe 3. Spécifiquement, le mouvement est un lorsque d'abord, étant un en genre, il est un en outre dans une espèce indivisible. Par exemple, la couleur a des différences puisque la couleur noire et la couleur blanche diffèrent en espèce. Ainsi donc, toute couleur blanche considérée sous le rapport de l'espèce est identique à toute autre couleur blanche, de même que la couleur noire est spécifiquement identique à toute couleur noire. Mais cette couleur noire n'est plus spécifiquement la même que la couleur blanche. Par conséquent, la couleur blanche est spécifiquement identique à toute couleur blanche. Paragraphe 4. S'il est par hasard des choses qui soient tout ensemble genre et espèce, il est clair que pour elles, le mouvement sera, à quelques égards, un sous le rapport de l'espèce. Mais absolument parlant, il ne sera point spécifiquement identique. Tel est, par exemple, l'acte d'apprendre quelque chose et le mouvement de cet acte. Si la science est une espèce de la conception et le genre des sciences particulières. Paragraphe 5. On peut se demander si le mouvement est bien en effet spécifiquement un et identique lorsqu'une même chose change et se meut du même au même. Soit, par exemple, un seul et même point qui se meut allant et revenant à plusieurs reprises de tel lieu en tel lieu. Mais si l'on dit que dans ce cas, le mouvement est identique, alors la translation circulaire se confondra avec la translation en ligne droite et la rotation avec la marche. Ou bien notre définition n'a-t-elle pas établi que le mouvement est autre quand la manière dont il se passe est spécifiquement autre? Or, le mouvement circulaire est en espèce différent du mouvement en ligne droite. Paragraphe 6. Voilà donc comment le mouvement est un et identique, soit en genre, soit en espèce. Paragraphe 17. Mais absolument parlant, le mouvement est un quand il est un en essence et en nombre. En analysant les choses, nous allons voir quel est le mouvement qui peut être ainsi considéré. Il y a trois termes à étudier. Quand nous disons que le mouvement est un, l'objet, le lieu et le temps. Par l'objet, j'entends qu'il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose qui soit en mouvement. Un homme, par exemple, ou un morceau d'or, etc. Il faut en outre que ce mouvement ait lieu dans quelque chose, par exemple, dans l'espace ou dans la qualité. Et enfin, qu'il ait lieu dans un certain moment, car tout mouvement se passe dans le temps. Entre ces trois termes, l'unité de mouvement en genre et en espèce ne peut se trouver que dans le lieu où le mouvement se passe. La continuité de mouvement ne peut être, comme nous l'avons vu, que dans le temps. Mais l'unité absolue du mouvement ne peut se trouver que dans les trois termes réunis que nous venons d'indiquer. En effet, ce dans quoi le mouvement se passe doit être un et indivisible. Et, par exemple, c'est l'espèce. Le mouvement où il se passe doit être identique aussi. Et c'est, par exemple, le temps un et sans aucune interruption. Enfin, l'objet qui est en mouvement doit également être un sans l'être, ni par accident, ni d'une manière commune. Il ne doit pas l'être par accident et indirectement. Ainsi, le blanc devient essentiellement noir ou Coriscus marche essentiellement. Mais si Coriscus et le blanc sont une seule et même chose, c'est simplement par accident. L'objet ne doit pas être commun, car il se pourrait que deux hommes se guérissent à la fois par une seule et même guérison. Et par exemple, qu'ils guérissent d'une ophtalmie qui les affecterait tous les deux. Mais leur ophtalmie ne serait pas une seule et même ophtalmie, et elle serait une seulement en espèce. Paragraphe 8. Supposez que Socrate éprouve un changement qui soit le même par son espèce, mais qu'il l'éprouve dans un temps autre, et que, chaque fois qu'il l'éprouve, ce soit dans des temps toujours différents. Si l'on admet qu'une chose détruite puisse redevenir numériquement une, le mouvement éprouvé par Socrate sera un et le même. Sinon, ce mouvement pourra bien être le même, mais il ne sera pas. Paragraphe 9. Une autre question fort analogue à celle-là, c'est de savoir si, par exemple, la santé est essentiellement une et identique dans les corps, et d'une manière générale, si les affections et les qualités y sont identiques et une. Car les corps qui les possèdent changent, et se meuvent évidemment, et sont dans un flux perpétuel. Mais si la santé que j'ai maintenant est bien la même identiquement que celle que j'avais ce matin, pourquoi la santé que l'on recouvre après une maladie ne serait-elle pas numériquement cette même santé qu'on possédait avant d'être malade? Car le raisonnement est identique de part et d'autre. La seule différence entre ces temps, c'est que si deux mouvements se confondent de telle manière en un seul qu'il soit numériquement un, il faut nécessairement que les affections soient une aussi. Car pour ce qui est un numériquement, l'acte aussi est numériquement un. Mais il ne suffit pas que l'affection soit une pour que l'on puisse dire que l'acte le soit également. Ainsi, du moment que l'on s'arrête de marcher. Il n'y a plus de marche. Et si l'on se remet à marcher, il y a marche de nouveau. Si donc c'était là un seul et même acte, il s'ensuivrait qu'une seule et même chose, tout en restant une, pourrait tout ensemble périr et renaître plusieurs fois. Mais ces questions s'éloignent trop du sujet qui doit actuellement nous occuper. Revenons. Paragraphe 10. Puisque tout mouvement est continu, il faut, quand le mouvement est absolument un, qu'il soit continu aussi, car tout mouvement est divisible, et quand il est continu, il est un. Paragraphe 11. Mais tout mouvement ne peut pas être continu à toute espèce de mouvement, pas plus que dans un autre cas, une chose quelconque ne peut être continue à la première chose venue. Il n'y a continuité qu'autant que les extrémités peuvent s'unir et se confondre. Or, il y a des choses qui n'ont pas d'extrémité, et il en est d'autres dont les extrémités sont spécifiquement différentes et simplement homonymes. Et par exemple, comment les extrémités de la ligne et de la marche pourraient-elles se toucher et s'unir? Paragraphe 12. D'ailleurs, des mouvements qui ne sont identiques ni en espèce ni en genre peuvent se suivre. Par exemple, un homme qui court peut, après avoir couru, gagner sur le champ un accès de fièvre. Et, comme un flambeau qu'on se passe de main en main, le mouvement de translation peut suivre. Mais pour cela, il n'est pas continu, car on ne reconnaît de continuité que là où les extrémités peuvent se confondre et s'unir. Paragraphe 13. Ainsi, les choses se tiennent et se suivent, parce que le temps est continu, le temps est continu à son tour, parce que les mouvements le sont aussi. Enfin, les mouvements ne sont continus que quand les extrémités des deux se confondent en une seule. Paragraphe 14. Par conséquent, il faut nécessairement, pour que le mouvement soit continu et identique, qu'il soit le même en espèce, qu'il soit le mouvement d'une seule chose et qu'il se passe dans un seul temps. Je dis dans un seul temps pour qu'il n'y ait pas d'immobilité ni d'arrêt dans l'intervalle, car durant le temps où le mouvement viendrait à défaillir, il y aurait nécessairement un repos. Il y a plusieurs mouvements et non un mouvement unique là où il se trouve un intervalle de repos. Et si un mouvement se trouve interrompu par un temps d'arrêt, ce mouvement n'est plus unique ni continu. Or, il est interrompu du moment qu'il y a un temps intermédiaire. Mais pour un mouvement qui spécifiquement n'est point un et le même, il n'y a rien de pareil, lors bien même que le temps ne présente pas de lacune. Le temps, alors, est bien un, mais spécifiquement, le mouvement est autre, car lorsque le mouvement est un et le même, il est aussi un et le même, en espèce nécessairement. Mais il n'y a pas nécessité que ce mouvement soit un d'une manière absolue. On voit maintenant ce qu'il faut entendre par un mouvement absolument un et le même. Paragraphe 16. On dit encore d'un mouvement qui est complet, qu'il est un, soit en genre, soit en espèce, soit en substance. Ici, comme dans tout le reste, l'idée de complet et d'entier n'appartient qu'à ce qui est un. Mais quelquefois, le mouvement a beau être incomplet, on n'en dit pas moins qu'il est un, pourvu qu'il soit seulement continu. Paragraphe 17. Indépendamment de tous les mouvements un et identiques dont nous venons de parler, on dit encore d'un mouvement qui est égal et uniforme qu'il est un, car le mouvement inégal ne peut point en quelque sorte paraître un. Mais un mouvement égal le paraît davantage, comme le paraît la ligne droite. L'inégal est divisé, mais les mouvements ne diffèrent que comme le plus et le moins. Paragraphe 18. Du reste, dans tout mouvement quelconque, on peut distinguer l'égalité ou l'inégalité. Ainsi, une chose peut subir un mouvement d'altération avec égalité, de même qu'elle peut subir un mouvement égal de déplacement dans l'espace, soit en cercle, soit en ligne droite. Et l'on peut faire la même remarque pour l'accroissement et pour la destruction. Paragraphe 19. Parfois, la différence d'inégalité tient au lieu dans lequel le mouvement se passe, car il n'y a pas moyen que le mouvement soit égal sur une grandeur qui n'est pas égale. Prenons, par exemple, le mouvement selon une ligne brisée, ou selon une spirale, ou selon telle autre grandeur ou une partie quelconque ne correspond pas à la partie quelconque qu'on a prise. Parfois, aussi, la différence d'inégalité du mouvement ne consiste ni dans le lieu parcouru, ni dans le temps, ni dans le but ou dans le mouvement, mais dans la manière dont il se fait. Car, quelquefois, on distingue le mouvement par la vitesse ou la lenteur. Quand la vitesse est la même, le mouvement est égal. Quand elle ne l'est pas, il est inégal. Paragraphe 20. D'ailleurs, ce qui fait qu'on ne doit considérer la lenteur ou la vitesse ni comme des espèces ni comme des différences du mouvement, c'est qu'elles peuvent accompagner tous les mouvements, quelque différents qu'ils soient en espèces. La pesanteur et la légèreté ne sont pas davantage des espèces ou des indifférences quand elles se rapportent à un même objet, ainsi pour la terre par rapport à elle-même et pour le feu par rapport à lui-même. Paragraphe 21. Cependant, le mouvement inégal est un et identique parce qu'il est continu, mais il l'est moins comme cela se voit dans la translation en ligne brisée, et le moins suppose toujours un certain mélange du contraire. Paragraphe 22. Si d'ailleurs tout mouvement 1 peut être égal ou inégal, les mouvements qui ne se suivent pas spécifiquement ne peuvent pas non plus être un et continu. En effet, comment un mouvement composé d'altération et de translation pourrait-il être égal ? Car il faudrait d'abord que ces deux espèces de mouvements s'accordassent entre elles.